Bonsoir à tous, on retourne ce soir chez Michelin où la colère ne retombe pas après l'annonce de la fermeture de l'usine de Cholet. Reportage ensuite au collège Supervielle à Bressuire lors de la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Les conviviales d'automne à Bocapaule avec les concours aujourd'hui, rencontre avec un éleveur passionné et passionnant. L'université citoyenne de Thouars sort des sentiers battus pour sa conférence débat de mardi prochain sur la construction des maisons en terre crue. Enfin, Difart crée l'événement demain soir à Partenay en accueillant The Inspector Clouseau. Chez Michelin, la consternation et la colère ne retombent pas après l'annonce mardi de la fermeture de l'usine de Cholet qui emploie un peu plus de 950 salariés avec pas mal d'ancienneté pour certains d'entre eux. C'est le cas de Sébastien Gélineau, à 30 ans de boîte, Emmanuel Ramos, 27 ans chez Michelin, et Pascal Gandon, 36 ans d'ancienneté. Ils sont aussi, pour les deux premiers nommés, délégués CGT et ils sont au micro de Vincent Nori.
On s'y attendait pas forcément, on s'attendait peut-être à un dérèssage un petit peu, mais là, la fermeture totale de 1000 personnes, voilà, ça fout un coup. Il y a pas mal de nos collègues qui sont vraiment pas bien.
La fermeture a été assez brutale. On a moins de 6 mois pour se préparer, pour trouver notre travail. Et là, on essaye de se retourner un petit peu en essayant de préparer pour la semaine prochaine une grève. Bon, à partir de mardi, la production reprend mardi. Et on va essayer de mobiliser le maximum de personnes pour obtenir, pas forcément sauver l'usine, mais que voilà, il faudrait que les conditions de départ soient acceptables pour tous les employés. Quoi.
Pour l'instant, les conditions données par Michelin, qui est milliardaire, qui bat des bénéfices tous les ans, c'est inacceptable.
Vous sentez un soutien local ?
Oui, on a un soutien de tout Cholet, même aux alentours, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Michelin. Il nous parlait des salaires décents pendant des mois, là on va voir si le licenciement sera décent.
C'est vrai qu'on a donné pas mal à l'entreprise, on a travaillé les week-ends, les dimanches, les jours fériés. C'est vrai que nous mettre dehors comme ça, c'est un voyou, quoi, le patron, une entreprise comme Michelin qui a du CAC 40 et qui fait des milliards de bénéfices.
Et Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l'industrie, est attendu demain sur le site de Cholet après l'annonce mardi du groupe Michelin de son intention de fermer son usine au plus tard début 2026. Une manifestation dans les rues choletaises est envisagée pour demain vendredi. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation, seront à Niort demain dans les locaux du groupe intermutuel Assistance IMA. Elle échangera avec les salariés avant de rencontrer les adhérents des groupes mutualistes de la région à la préfecture. Les échanges porteront sur les spécificités du modèle mutualiste, les enjeux nationaux et européens, notamment sur la question des risques d'inassurabilité et du rôle des mutualistes face à ces défis. Ce 7 novembre marquait la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école et au collège Supervielle de Bressuire. On a marqué le coup avec plusieurs temps dédiés. À la récré de 10h ce jeudi matin, les 630 élèves de l'établissement se sont massés dans la cour pour le flash mob orchestré par Clarisse Gandrillon, la prof de PS.
Se sentir bien au collège, partager aussi des moments un peu exceptionnels et joyeux et festifs, et pour avoir une bonne ambiance, avoir envie de participer à ces événements, et ça nous permet surtout aussi de communiquer sur le harcèlement scolaire à ce moment-là, quand on peut avoir des événements de telle sorte. Mais on y travaille tous les jours, on fait un travail dans l'ombre aussi au quotidien. On est vraiment mobilisé chaque jour dans le collège Supervielle.
Et notamment à travers le dispositif Superveille, un collectif qui réunit 40 adultes et élèves, des médiateurs qui se renouvellent en permanence. Léonie Carollo enseigne l'anglais dans le collège public Bressuire.
On a 40 personnes, des adultes et des élèves, mais on a une vingtaine de personnes qui vont être formées et qui vont nous rejoindre à la fin du mois. Et depuis 2017, il y a une centaine de personnes qui ont été formées en tout au collège dans le dispositif. Donc ça, c'est plutôt une grande réussite pour nous de savoir que là, on a une centaine de personnes qui ont été directement concernées par le dispositif, mais à chaque fois, on a tout le rayonnement dans un établissement et après dans plusieurs établissements.
Superveille a pour objectif de lutter contre le harcèlement via des actions de sensibilisation et la formation de personnes ressources qui alertent et soutiennent pour participer à un climat scolaire serein. Les résultats sont assez tangibles. Marie Écolant, enseignante également membre du dispositif.
L'année dernière, en 6 mois, on avait recensé une centaine de fois où les élèves avaient soutenu d'autres collégiens. Des 140 élèves soutenus en 6 mois. ces 140 élèves qui n'auraient rien eu si Superveil n'existait pas. C'est naturel chez eux d'alerter et de soutenir. C'est pour ça que quand on les interroge, en fait, c'est spontané pour eux. Ils ne se posent même plus la question. Ils ont été formés. Ils savent repérer un élève qui ne va pas bien. Et donc, naturellement, ils vont vers eux.
C'est toute la communauté du collège qui se mobilise, comme le souligne le principal, Luc Bastien.
C'est fédérateur. Et puis, c'est une cause nationale, le harcèlement. C'est vrai que voir une équipe constituée d'une bonne vingtaine d'adultes, une bonne vingtaine d'élèves qui sont formés pendant 4 jours pour la sensibilisation et la lutte contre le harcèlement, dès lors qu'on a toute une communauté qui est mobilisée pour une même cause, ça donne une légitimité, ça donne du sens.
Voilà, reportage réalisé ce matin au collège Supervielle lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Les conviviales, cette fin de semaine à Bocapol, les éleveurs charolais se retrouvent ce jeudi et demain vendredi à Bocapol. À 19h se terminent les différents concours organisés par l'association des éleveurs charolais des Deux-Sèvres. Une trentaine d'éleveurs ont emmené leurs meilleurs spécimens, 130 bovins environ, choyés par les agriculteurs, scrutés par les collègues et jugés par les jurés. Thierry Prin, éleveur et sélectionneur en Loire-Atlantique, nous explique ici en quoi c'est important pour lui de participer.
L'intérêt des concours, c'est de se comparer par rapport aux autres éleveurs, parce que chez soi, on a toujours des animaux qu'on trouve très bons, mais tout le monde amène l'élite de ces animaux, donc on se compare par rapport aux autres, et puis après, c'est un moyen de promotion. Parce que nous, le but, c'est de vendre pour la reproduction, que ce soit des mâles, des femelles, à la saillie, des vaches pleines. On essaye de montrer la vitrine de l'élevage pour attirer les gens à venir chez nous. Et puis après, le fait de, si on a la chance d'obtenir un premier prix, des fois un prix d'honneur, ça donne de la valeur à nos animaux, ça montre que on correspond au modèle de la race et ça incite les gens à venir après à la maison.
Puis ça permet aussi vous de vous challenger, de progresser toujours.
Ah, bien sûr, oui. Continuellement, il n'y a rien de fini dans la sélection. Il y a toujours des postes à améliorer continuellement, que ce soit les qualités de croissance, les qualités maternelles, c'est-à-dire les aptitudes au vélage, le lait, la morphologie, la viande sur les animaux. Il y en a qui sont plus élevage, d'autres plus viande. Non. Il y a toujours des choses à améliorer.
Il y a aussi cette volonté de donner une bonne image de la race charolaise, en l'occurrence. Nous avons interrogé Thierry Prin au matin du concours, vécu intensément, notamment au moment du défilé de l'animal sur le ring.
La locomotion, c'est très important, parce qu'une bête qui marche très bien, là, on dit qu'elle a de la classe, quoi. Elle dégage quelque chose et ça attire l'œil. Au niveau des juges, ça l'incite à la classer devant une autre, parce que quand elle marche, elle a de la prestance. Donc c'est tous ces détails-là, mais oui, il y a beaucoup de travail en amont sur l'exploitation avant de ramener des animaux sur le concours. La pression monte un petit peu, mais c'est une bonne pression. C'est l'esprit de compétition un petit peu. Mais après, on se connaît tous, donc une année, ça va être un qui va avoir la chance de faire un prix d'honneur. L'année d'après, ça va être un autre.
Le rapport que vous avez au jury, comment ça se passe, les relations avec eux?
Très bien, parce que il faut respecter les juges. Les juges sont là pour juger les animaux, les sections. Quand on vient avec des animaux, on accepte le jugement, même si des fois on n'est pas d'accord. Mais il faut accepter, c'est logique. C'est logique, donc en général ça se passe très bien. Après, quelquefois, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, je comprenais pas pourquoi j'étais classé à cette place-là, d'aller voir le juge et lui demander des explications pour justement avancer, pour progresser. Les juges sont éleveurs également. Moi, ça m'arrive d'être juge aussi. Donc c'est normal qu'il y ait un respect des gens qui viennent juger.
Thierry Prin, éleveur en Loire-Atlantique, qui nous emmène dans l'univers des concours bovins, comme sur les conviviales aujourd'hui. Elles se poursuivent demain, toujours à Bocapol, à Bressuire, avec la remise des prix à 11h. Thouars explore le principe de la construction des maisons en terre crue. Une fois de plus, l'université citoyenne sort des sentiers battus pour sa conférence débat de mardi 12 novembre à la station T. Vous êtes invité à découvrir la construction de maisons en terre crue, une pratique qui est rare, auquel François Perra donnera une résonance locale. Il préside l'association Citer, qui veille sur le patrimoine des rares maisons en terre crue du Poitou, près de Moncontour. Alors, construire les maisons en terre crue, à qu'elle s'appelle le pisé, la bauge, la daube ou le torchis, est-ce aujourd'hui un rêve, une illusion ou une promesse de réalité? La réponse de François Perra au micro-colline de Dominique Hérault.
Aujourd'hui, en France, 15% de l'habitat est en terre. Des villes comme le Vieux-Lyon, il y a des tas d'immeubles en pisé. Toute la région, là, entre Clermont-Ferrand et Lyon, vous avez énormément de ce type de construction. Sur la Normandie aussi, avec la Bauge ou le Torchy. Dans la culture française, la terre, c'est quelque chose de fragile. Or, on voit des maisons en terre qui ont plusieurs siècles et qui tiennent toujours debout. Les scientifiques se sont aperçus que les terres à bâtir sont des terres très spécifiques qui correspondent à certains critères et qui sont très fiables.
Il faut donc casser cette image de fragilité, mais il va être difficile de rompre avec le ciment et le béton que l'époque contemporaine a sacralisé depuis l'ère industrielle au XXe siècle. Pourtant, pour François Perra, la terre crue présente bien des avantages, à commencer par les impératifs écologiques.
Aujourd'hui, rien que les cimenteries, c'est 7% de l'empreinte carbone mondiale et le BTP, pas loin de 40%. Aujourd'hui, où il faut baisser notre empreinte carbone dans le BTP, la terre, c'est une mise en œuvre proche de 0% de consommation carbone. C'est éternellement recyclable. Ça a des qualités de climatisation, d'isolation phonique, thermique, etc. Ce matériau est appelé à un nouvel avenir. Le CFA bâtiment de Chonjo à Poitiers a construit des exemples de murs en terre. Il y a deux écoles maternelles à Poitiers qui sont construites maintenant en terre. Les architectes ont besoin de normes. Aujourd'hui, on a des normes sur certaines terres et on peut construire en terre. Et il y a des exemples de maisons en terre crue en imprimante 3D.
Des exemples notamment en Italie. Le passé de la terre crue a-t-il de l'avenir? Il reste à surmonter bien des préjugés et des obstacles, car la mise en œuvre d'une maison de terre coûte surtout de la main-d'œuvre. Et si elle fait diminuer l'empreinte carbone, elle augmente le tarif de la réalisation pour l'instant, du moins. Ce qui est gratuit, en revanche, c'est le rendez-vous ouvert à tous proposé sur ce thème par l'Université citoyenne de Thouars, mardi 12 novembre à 20h à la station T. Reportage de Dominique Hérault. Diffart crée l'événement demain soir en accueillant The Inspector Clouseau, qui s'est construit une renommée internationale dans un registre blues rock. Ils ont fait le Hellfest et les vieilles charrues. Ils déchaînent les foules au Japon ou ailleurs. Mais le duo guitare-batterie reste authentique et attaché à son indépendance. Le programmateur de la salle Diffart en rêvait depuis des années. David Sauvignon ne cache pas son plaisir d'accueillir The Inspector Clouseau dans la petite salle partenaisienne.
Ils font chaque année autant de dates et ça leur tient vraiment à cœur, autant de dates à l'étranger qu'en France. Donc, ce qui fait qu'ils sont assez rares en France. C'est assez compliqué de trouver des dates disponibles. Et c'est d'autant plus compliqué que l'autre spécificité de ce groupe-là, c'est que ce sont deux fermiers, ils sont maraîchers et ils sont aussi éleveurs, deux agriculteurs. Ils sont des Gascons. Ils travaillent dans le sud de la France sur une exploitation qui est assez grande aussi et qui est très très intéressante. Et ils travaillent des deux côtés, l'agriculture et la culture, pardon, de la même façon, de façon très artisanale, familiale. Et donc ça, c'est quand même très intéressant, mais ça rend les choses un peu compliquées pour les avoir. Et donc ça fait bien 6-7 ans qu'on leur court après. Et ça y est, enfin, on va pouvoir les avoir sur la scène de Diffart.
Inspecteur Clouseau à la salle Diffart ce vendredi 8 novembre à Partenay avec Grant Aoua en première partie. Ouverture des portes à 20h30, restauration possible sur place avec la ferme des deux villages, producteur d'agneau de Pougny-Risson. Il y a des chances aussi pour que The Inspecteur Clouseau vienne avec leurs produits de la ferme, des confits de canard notamment. Le duo ne régale pas seulement sur scène. Un petit mot de sport, Naïm Gokta s'est qualifié pour la finale des championnats d'Europe cadet qui se dispute en ce moment en Albanie à Tirana. Le licencié du club de taekwondo de Bressuire est assuré de revenir avec une médaille.
Quel temps aujourd'hui? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Toujours ce brouillard qui résiste, surtout sur la moitié nord des Deux-Sèvres, alors que le sud a plus de chances d'apercevoir le soleil. Restez évidemment prudents sur les routes. Demain, c'est le même scénario. Avec toujours ce risque de brouillard, nous pourrions avoir de la pluie samedi et lundi, alors qu'on n'annonce pas de précipitations sur la journée de dimanche. Un petit œil sur le week-end qui vient. Les températures pour demain, 9-10 degrés au lever du jour. 15 à 17 degrés pour les maximales. Toute l'info près de chez vous revient désormais demain matin à 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.